Et alors, aujourd'hui, on est très international, puisque après le Brésil, après Montréal, on va partir ailleurs avec Céline, on va parler de documentaire.
Ouais, et on part dans trois endroits différents. On part en Amérique centrale, on part aussi aux États-Unis et on part au Bahreïn, puisque donc je vous propose d'écouter maintenant une interview avec Stéphanie Lamoré, qui est réalisatrice. Et on va parler avec elle de ces trois documentaires qui sont d'abord un documentaire qu'elle a fait en 2009 qui s'appelle Ainsi long voyage, où elle suit Fatima qui remonte de l'Équateur aux États-Unis. Donc c'est un voyage qui a duré à peu près 7 semaines pour 7 000 km. Ensuite, Stéphanie Lamoré a fait un deuxième documentaire qui s'appelle LA Gang de femmes qui a été diffusé sur Arte en avril, où
Et
elle
qu'on
est.
peut revoir d'ailleurs sur Arte en VOD aujourd'hui, hein, c'est
Moyennant,
accessible.
je crois, 3 euros la location pour 48 heures ou quelque chose comme ça.
Ce
Ouais.
n'est pas trop cher.
Ça va, ça reste une somme abordable. Voilà, donc où Stéphanie Lamoré a suivi en fait des femmes qui sont membres de gangs à Los Angeles. Et puis le troisième documentaire dont on va parler, c'est celui qu'elle vient de terminer, qui va être diffusé sur Arte le 12 juin à 22h15 et qui s'appelle Bahreïn plongée dans un pays interdit. Sachant que donc le Bahreïn est un pays interdit aux journalistes et que Stéphanie Lamoré est restée clandestinement un mois dans ce pays et a suivi les manifestantes, les manifestants, voilà, qui se mobilisent tous les jours, comme on va voir dans la discussion que je vous propose d'écouter maintenant.
Comment vous choisissez vos sujets, Stéphanie Lamoré?
En fait, j'aime les gens en lutte. J'aime les gens qui se battent, j'aime les engagements forts. Donc, en général, je choisis mes sujets par rapport à ça. Et les gangs de femmes, c'est différent. J'avais envie de parler de la violence des femmes. Mais sinon, mes autres sujets, c'est vrai que c'est voilà, des gens qui essayent d'atteindre un but, qui essayent d'atteindre un objectif et qui mettent souvent leur vie en danger. Par exemple, dans un si long voyage, j'ai suivi des Équatoriens qui voulaient se rendre aux États-Unis, mais qui savent que le voyage jusqu'aux États-Unis est dangereux, périlleux, et voilà, ils risquent leur vie. Au Bahreïn, c'était la même chose. Ce sont des gens qui vont quotidiennement dans la rue pour demander leurs droits, tout en sachant qu'ils risquent d'être tués.
Et dans votre façon de filmer, parce qu'il y a souvent, alors bon, un peu par la force des choses, donc par exemple dans Un si long voyage, quand vous êtes coincé sur le train avec Fatima, forcément ça fait un très gros plan sur son visage, mais quand même vous avez
Ouais, c'est
tendance.
vrai que j'aime la proximité, c'est-à-dire que il faut comprendre que je travaille seule. Donc ça veut dire voilà, bon, parler et filmer la personne en même temps, ce qui est jamais évident parce qu'on a envie quand même d'avoir le rapport, on a envie d'avoir le regard de l'autre et c'est vrai que quand on est loin avec un HF sur la personne, ben oui, la personne, elle ne vous parle pas si vous êtes à l'autre bout de la pièce. Donc et j'aime être proche des gens. Et pour moi, la caméra, c'est juste une continuation de mon corps. Donc voilà, je vais être en face d'elle parce que je lui parle, parce on communique sur des choses en plus souvent assez fortes. Et c'est vrai que j'ai souvent les gens de très près à cause de ça.
It's train after train for 18.
Les trains succèdent aux trains pendant 18 jours, de Tenosique jusqu'au nord du Mexique. Une distance de 3 000 km. On monte et on descend de toutes les façons possibles, le jour ou la nuit. Parfois, il faut graisser la patte du conducteur. Parfois, on espère juste qu'ils ferment les yeux parce qu'ils ont l'habitude. Tout le monde sait que les migrants traversent la région pour atteindre la terre promise. Nuevo Laredo, la ville frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ici, impossible d'échapper aux passeurs. On finit le voyage avec eux ou pas du tout. Comme un gang bien organisé, les coyotes rôdent à la recherche des clients.
Les passeurs à la frontière mexicaine, ça a duré 3 jours avant qu'un passeur accepte de me rencontrer parce qu'aucun passeur ne voulait me laisser filmer. C'est-à-dire que tout de suite, on est arrivé. En fait, avant même que le train n'arrive, les passeurs abordent les migrants en disant venez, nous, on va te faire passer pour tel prix, tel prix. Donc, ils ont vu que j'étais là. Moi, j'étais pas cachée, j'étais avec ma caméra. Donc, tout de suite, ça s'est su dans le village que quelqu'un était là avec une caméra. Aucun passeur ne voulait prendre le risque de m'emmener avec lui et le groupe pour traverser le désert. Et au bout de 3 jours, il y a le doyen des passeurs du village, on va dire, qui a accepté de me rencontrer et qui a décidé de me faire passer. Et justement, pour revenir au fait d'être seule, il m'a dit, écoute, moi, je respecte ce que tu as fait, je respecte le courage que tu as eu en accompagnant ces gens, en faisant toute la traversée du Mexique en train, en faisant blablabla, en faisant ce que tu as fait. Je respecte ça et je vais te permettre effectivement de pouvoir finir ton travail, de pouvoir finir ce que tu as commencé.
Après un si long voyage, Stéphanie Lamoré a réalisé un documentaire sur les gangs de femmes à Los Angeles. Il a été diffusé sur Arte en avril.
Selon le FBI, 80% des crimes commis aux États-Unis sont liés aux gangs. Être dans un gang, c'est tuer pour un territoire, tuer pour exister. Une guerre sans fin qui laisse plusieurs centaines de morts chaque année dans les rues de Los Angeles. Un membre de gang a une espérance de vie de 25 ans. Il y a 40 000 membres de gang à LA. 4 000 d'entre eux sont des femmes. Let me shake it off. I just signed a couple deals. I might break you off. And we ain't making up. I don't need a mediator. Just let them bums blow steam. Radiator.
Il y a des gros gangs qui sont les Creeps, les Bloods, les M18, voilà, les gros gangs américains ou latins. Et à l'intérieur de ces gangs, on va dire, il y a des cliques, ce qu'ils appellent des cliques, donc des petits groupes d'hommes ou de femmes qui, eux, s'organisent entre eux. C'est pas une structure pyramidale, en fait.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un documentaire sur les gangs de femmes ?
Moi, je voulais faire, en fait, une série sur la violence des femmes dans le monde. Donc, les femmes human bomb, les femmes pédophiles, vous voyez, toute une série sur les femmes actrices de la violence. Et le premier, en fait, sujet que je voulais faire était les gangs de femmes. Donc, c'est pour ça que je me suis rendue aux États-Unis, à Los Angeles. Au début, je n'étais pas sûre de le faire à Los Angeles. Je me suis rendue aux États-Unis en me disant, bon, ça peut être là, mais ça peut être une autre ville des États-Unis. J'étais très étonnée par ce qu'elles m'ont dit. Je pensais que c'était un monde dans lequel il y avait quand même un peu plus d'humanité. Et j'ai découvert un monde dans lequel il n'y avait aucune humanité. C'est-à-dire, ça faisait 2 jours que j'étais à Los Angeles, j'ai rencontré des femmes qui étaient ex-membres de gangs, qui m'ont dit... It's all about love. On parle. Être dans un gang, c'est juste, c'est de l'amour. On parle d'amour. Pourquoi dans un gang, il faut nous demander qu'est-ce qu'on pense de l'amour en fait. Qu'est-ce que c'est pour nous l'amour?
Il y a des choses que j'ai essayé de changer tellement, mais ça ne va pas changer qui j'ai été. J'ai passé beaucoup de temps en prison pour extorsion et kidnapping. Je suis allée dans une prison pour délinquants juviniles. J'y suis restée un moment, j'en ai pris pour 8 ans. Je suis sortie adulte, quoi. J'avais 21 ans. Je ne savais pas faire un chèque, rien. J'ai eu mon premier enfant à 23 ans. Je voulais cet amour inconditionnel. Et je l'ai maltraité. À cause des problèmes que j'avais avec son père. Et juste, je suis partie. Je ne savais pas comment m'adapter, quoi faire. J'ai abandonné mon fils et je suis revenue dans le quartier.
Elles ont choisi cette vie-là, même si elles savent que ça les détruit et que ça mène nulle part. Mais en même temps, et même si elles disent toutes « oui, je rêve d'autre chose », mais elles ne le font pas. Parce qu'en même temps, au quotidien, elles restent là-dedans. Elles ne disent pas « bon, ben moi, je pars de l'autre côté des États-Unis pour avoir une autre vie ». Donc, elles restent dans cette destruction. Elles ont des enfants en se disant à un moment, et Crazy le dit très bien, « je voulais cet amour inconditionnel », parce que quelque part, c'est ce qu'elles recherchent toutes. C'est encore, voilà, on veut être aimé, on veut, et peut-être avoir un enfant, c'est la seule manière d'être vraiment aimé par quelqu'un. Elles vont un peu moins sortir avec le bébé. Mais moi, je l'ai vu. Moi, j'ai pas pu la filmer, mais j'ai vu le personnage qu'on voit au début de Gang de Femmes avec son bébé. un jour, je suis arrivée chez elle, elles se sont embrouillées avec d'autres filles, elle a le bébé dans une main, un cran d'arrêt dans l'autre, en disant « on va les détruire, ces salopes ». Et ça, à un moment, c'est plus fort que le reste, c'est plus fort que leur sentiment de maternité, c'est plus fort même que la présence de leur enfant.
Vous êtes allée au Bahreïn entre janvier et février 2012,
ouais,
là, c'est
fait.
Ça ?
Ouais.
Comment vous en êtes arrivée à faire un documentaire sur le Bahreïn ?
En fait, j'étais partie au Bahreïn pour un repérage sur les femmes dans les différents pays arabes où il y avait eu des révolutions. Donc, quelle était la place de la femme, comment elles se sentaient, ce qu'elles espéraient, ce qu'elles attendaient du nouveau régime ou de la chute du régime. Voilà. J'y suis allée, voilà, pour quelque chose d'assez simple à la base, enfin ce qui me semblait simple. Sauf qu'en arrivant à l'aéroport, quand ils ont vu mon matériel, que j'arrivais de Libye, qu'ils m'ont demandé ce que je faisais, que j'ai dit, voilà, je suis filmmaker. Donc, à partir de là, ils m'ont arrêtée. Et ils m'ont gardé 10 heures, ils ont pris l'équipement. Et finalement, ils m'ont dit, bon, ok, on vous donne 72 heures pour quitter le pays, ce que je n'ai pas fait. Et le Bahreïn, en fait, moi, j'y allais pas du tout pour ça. Mais finalement, avec ce qui s'est passé, j'ai commencé à comprendre quelle était vraiment la situation dans le pays. Il a fallu... J'étais en fait en contact avec des gens des droits de l'homme, des activistes des droits de l'homme sur place, qui m'ont tout de suite... amené au cœur du problème, on va dire. Donc, dès le premier jour, ils m'ont trouvé une caméra pour pouvoir filmer. Et voilà. Et après, en fait, avec la production, il a été décidé que je reste vraiment là-bas pour montrer, pour témoigner de ce qui se passe. Et du coup, ça a dépassé le côté, bon, je vais filmer des femmes pour parler. Il se trouve que je filme majoritairement des femmes parce qu'au Bahreïn, c'est difficile en tant que femme de rester avec des hommes. De rester dans une maison où il n'y a que des hommes et de dormir là-bas, etc. Mais là, c'est plus du fait de l'organisation de la société.
Alors, le cœur du problème au Bahreïn, c'est quoi ?
Le cœur du problème, c'est un régime dictatorial qui écrase tout ce qui dépasse, qui écrase toute contestation, qui n'accepte aucune contestation, aucune remise en question, qui tue des gens, qui les arrête, qui les torture et qui nie tout en bloc et qui veut garder une image jolie et lissée d'un petit royaume du Golfe. Voilà. Donc le cœur du problème au Bahreïn, c'est le régime. Le régime qui est complètement... c'est le Chili de Pinochet, quoi. Le Bahreïn, c'est exactement comme le Chili de Pinochet.
Il y a des manifestations tous les jours.
Il y a des manifestations exactement tous les jours. Tous les jours, les gens descendent dans la rue, dans les quartiers pour réclamer leurs droits. Et tous les jours, ils sont attaqués, jour et nuit même.
Donc ils sont attaqués notamment avec des gaz ?
Ils sont attaqués par la police, avec des gaz. Alors on dit des gaz, à chaque fois les gens pensent à des gaz lacrymaux, sauf que c'est pas du tout des lacrymaux, c'est des gaz... C'est une arme létale, c'est considéré comme une arme létale, donc c'est des gaz qui vous brûlent la peau, qui brûlent les poumons. C'est pour ça que je m'excuse, j'arrête pas de me racler la gorge, mais je paye encore un peu mon mois passé là-bas. Et donc voilà, ils attaquent avec la chevrotine, ils tirent dans la tête des gens à la chevrotine, ils leur tirent des capsules de gaz dans la tête, parce que non seulement le gaz peut vous tuer, mais si en plus, bien sûr, vous prenez une capsule de gaz qui fait 20 cm de long et 5 cm de diamètre dans la tête ou dans l'œil, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, ils perdent un œil, voire deux, ou la vie, parce qu'on leur tire à bout portant. Et ils sont attaqués aussi avec des balles en caoutchouc, mais ça, c'est ce qui est moins grave, je dirais.
Et le gouvernement a interdit aux hôpitaux de soigner les manifestants ?
Oui, l'hôpital principal de Manama, qui est le Salmania, est complètement contrôlé par les militaires. En fait, ça a commencé l'an dernier, quand la révolution a commencé.
Donc le 14 février.
Le 14 février 2011. Les militaires ont tout de suite, dans l'heure ou les deux heures qui ont suivi le début des combats, ils ont tout de suite investi l'hôpital. Ils ont empêché les médecins de faire leur travail. Donc les médecins ne pouvaient plus rentrer à l'intérieur de l'hôpital pour soigner les gens. Et ils arrêtaient les gens à l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que systématiquement, toute personne blessée lors d'une manifestation était arrêtée. Le sixième étage de l'hôpital a été transformé en centre de torture. Et jusqu'à maintenant, l'hôpital est contrôlé par les militaires. Et tout manifestant blessé ne peut pas se rendre à l'hôpital. Sinon, il est arrêté. Il est clairement arrêté. est tué, on ne le revoit jamais. Donc tous les blessés sont soignés chez eux par des infirmières bénévoles, enfin, qui acceptent, qui prennent le risque, c'est même pas qu'elles acceptent, c'est qu'elles prennent le risque d'aller soigner les gens chez eux.
We prefer to be targeted by an oppressive regime while we demand our rights than to be silent.
Nous préférons être la cible d'un régime oppressif et demander la liberté plutôt que de nous taire. Quand la révolution a commencé en Tunisie, puis en Égypte, c'est là que tout a changé au Bahreïn. Ça a été le tournant. Cela nous a tous inspirés. Ça devait se passer ici aussi. Nous souffrons, tout comme le peuple égyptien a souffert. Nous vivons dans la peur depuis trop longtemps. Avec cet espoir, les gens étaient plus courageux. Les gens étaient prêts à sortir dans la rue et à se sacrifier pour atteindre ces rêves que nous avions depuis si longtemps. Certains dans les médias disent que la révolution au Bahreïn est terminée, que le gouvernement a réussi à venir à bout de la révolution. Le gouvernement a échoué. Est-ce que vous réalisez le dévouement de ce peuple pour sortir presque chaque nuit, prendre le risque d'être tué, d'être emprisonné, et le lendemain se préparer à sortir à nouveau, encore et encore et encore, chaque nuit?
Voilà, on écoutait Stéphanie Lamoré parler de ses trois documentaires et notamment le dernier, Bahreïn, plongé dans un pays interdit, qui sera diffusé sur Arte le 12 juin à 22h15. Si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe au Bahreïn, quelle est la situation actuelle dont on parle finalement pas beaucoup, je vous recommande de regarder ce documentaire très édifiant, puisque Stéphanie Lamoré a passé un mois au Bahreïn avec les manifestants entre janvier et février 2012.